mon pépère.
Allez, une question plateau.
Oh là 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 là, quelle image.
La joie du pistolero à l'arrivée.
Et donc, on est de retour donc pour la seconde partie de ce podcast de présentation du Tour de France. Donc, on a eu droit au parcours, on a eu droit aux sprinteurs lors de la première partie. Là, on va s'attaquer vraiment au nerf de la guerre, aux maillots jaunes, quoi, ceux qui vont se livrer la lutte pendant 3 semaines pour décrocher le classement général. Allons-y. Là, la liste est longue comme le bras. Hein. Voilà, un petit peu à l'image du Giro. Hein. Alors, on s'était dit, quand on avait vu la startlist du Giro, ça va être difficile pour le Tour de France de soutenir la comparaison. Et les gars, quand même, là, ça envoie quand même du bois. Hein. Donc, le premier coureur à évoquer, sans aucun doute, c'est le tenant du titre, c'est Christopher Froome, qui a 3 tours de France en poche, qui est tenant du titre, qui a une équipe incroyable autour de lui, et qui malheureusement, quand même, le petit grain de sable, c'est que sa saison 2017, elle pue un peu quand même. Voilà, elle est un petit peu moyenne. Je crois que c'est la première fois qu'il aborde le Tour de France sans avoir gagné, auparavant dans l'année. Donc là, si je résume sa saison 2017, c'est 6e de l'Herald Sun Tour, 30e du Tour de Catalogne, 18e du Tour de Romandie et 4e du Dauphiné quand même. Donc il se ressaisit un petit peu sur ce mois de juin, mais disons que à aucun moment Froome a été stratosphérique ou vraiment a été au-dessus de tout le monde comme il savait le faire et le montrer sur les années précédentes. Donc est-ce que c'est pas l'année où Froome est le plus prônable? J'ai envie de vous poser ça comme question. Alex.
Bizarrement, je pense que oui. Je pense que c'est vraiment l'année où Froome a été vraiment pas étincelant comme les années précédentes sur l'avant-tour. Et du coup, on a un ressenti que Froome est vraiment plus faible par rapport aux dernières années. Il a 32 ans. Ça n'empêche pas Valverde d'être toujours au top niveau. Mais c'est peut-être l'année où Froome est vraiment le moins au-dessus des autres. Donc je pense que c'est vraiment une année où des Quintana, Porte, Chaves vont pouvoir aller chercher Froome et le mettre en difficulté en montagne comparé aux autres années.
Très bien. Je ne sais toujours pas qui est ce Chaves, hein, mais bon, c'est pas grave. Lucas, ton avis sur Christopher Froome? Est-ce que d'ailleurs son équipe serait pas un petit peu son salut? Parce que s'il est un petit peu moins fort que les années précédentes, son équipe quand même c'est la Dream Team, quoi.
Ah, c'est une armada, comme chaque année, comme tu dis, comme depuis que Sky gagne le Tour de France, ça va être compliqué de les manœuvrer. Après, Froome, c'est vrai que sur les résultats, même s'il était là sur le Dauphiné, l'étape avec le Mont du Chat, il finit devant. Donc il est toujours en forme. Il va être dans la lutte, quoi, ça c'est certain. Après, c'est vrai qu'il a l'air un peu moins fort. Franchement, ça m'a étonné de le voir aussi loin en Romandie. Ouais, pour moi, ça va être compliqué pour lui de gagner 3 fois d'affilée. Mais je pense quand même qu'il va le faire. C'est un peu bizarre à dire, mais même s'il n'arrive pas en forme, pour moi, il va encore être au-dessus. Ok, il n'y a que 36 km de contre-la-montre, mais il va encore être devant sur les contre-la-montre. Et je sais pas, j'ai l'impression que l'équipe est tellement forte que personne n'arrivera vraiment à le décramponner, à le lâcher. Et ça va être vraiment très très compliqué.
Okay, okay.
Je peux te contredire sur un point.
Vas-y.
Sur le point des contre-la-montre où tu penses qu'il va terminer devant tout le monde, faut pas oublier que Richie Porte a été bien meilleur que Froome sur tous les contre-la-montre où ils ont tous les deux été alignés cette saison.
C'est vrai ça.
Et sur le Dauphiné, il termine derrière Valverde et derrière Contador, Froome. Donc oui, peut-être... bon après...
Il fait top 10.
Voilà, oui, certes, il fait top 10, mais bon, voilà, après, il y a quand même quelques petites rumeurs qui disent que sa forme un petit peu précaire jusqu'à présent dans la saison, c'est un petit peu calculé parce qu'il paraîtrait que cette année, bon, comme souvent, il vise la Vuelta également après le Tour de France, mais que cette année, il a vraiment fait de la Vuelta également un gros objectif. C'est pas juste, il fait le Tour de France et après, il fait la Vuelta un petit peu en suivant, mais sans avoir fait vraiment une préparation spécifique dessus. Là, véritablement, il paraîtrait qu'il vise Tour de France-Vuelta et il vise d'être au meilleur de son niveau sur les deux courses, quoi. Donc c'est un petit peu ça qui expliquerait ce manque de démonstration qu'on a souvent l'occasion de voir de la part de Froome sur la première partie de saison, que ce soit en Romandie ou au Dauphiné, etc. Adrien, ton avis sur le Kenyan blanc ?
Alors, je partage un peu l'avis de Mayoj dans le sens où Froome m'a pas impressionné depuis le début de saison, et malgré tout, je le vois gagner le tour. Comme tu viens aussi de le souligner, je pense qu'il décale son pic de forme afin d'être prêt pour la Vuelta. Si Froome doit être prenable, c'est en première semaine. Je pense qu'en première semaine, il faut essayer de tenter des coups. Que ce soit au Rousse ou vers Chambéry avec le Mont du Chat. Après, ce sera plus compliqué. Je pense qu'il va monter en pression au fil des semaines. Et puis, son équipe est tellement forte qu'elle va cadenasser la course. Il est moins fort que les années précédentes. Porte est peut-être meilleur que lui à l'instant où on fait ce podcast. Cependant, au final, Froome gagnera.
D'accord, ok, très bien. Ben justement, évoque Richie Porte. Je pense que c'est le moment d'enchaîner, du coup, puisqu'on a à peu près tout dit sur Christopher Froome. À moins que vous ayez des choses à rajouter.
Non, pas spécialement. Je pense que on attend aussi qu'il fasse, comme l'an passé, un peu de spectacle, qu'il prenne des risques. Et s'il a toujours cette attitude offensive, ça va être compliqué, quoi. Vraiment, ça va être compliqué pour Porte, pour Quintana, pour Contador.
D'accord, ok. Néanmoins, Richie Porte, petite anecdote, est le favori selon les bookmakers. Donc voilà, je tiens à vous le dire. Les comptes sont...
Le futur vainqueur du Tour de France.
Voilà, donc les cotes sont à 2,3 pour Richie Porte, 2,4 pour Christopher Froome. Voilà. Donc, Richie Porte, il faut dire que quand même sa saison 2017 est assez énorme. Premier, donc vainqueur du Tour d'Avander, son tour national presque, vainqueur du Tour de Romandie, 11e de Paris-Nice avec en poche l'étape Rennes, et... il aurait peut-être été dans la lutte finale pour le Paris-Nice si jamais il n'avait pas lâché sur une étape de plat. Et deuxième du très récent Dauphiné, où il semblait le plus fort, mais visiblement, il a craqué sur la dernière étape, un petit peu à court, un petit peu trop omnibulé peut-être sur Froome aussi. Voilà. Alors, petite statistique, Richie Porte en 2017, il n'a couru que des courses World Tour. C'est-à-dire que le mec, le Continental, ça n'existe pas pour lui. Mais peut-être que ça... Petite faiblesse pour le mois de juillet, ce sera son équipe, voilà, parce que bon voilà, on a vu un Caruso assez fort, même plutôt très fort sur le Tour de Suisse, mais derrière il n'y a pas grand mode. Nicolas Roche, il fait un petit peu une saison blanche, et à part ça, c'est un petit peu la misère derrière, quoi. Donc qu'est-ce que vous pensez de Richie Porte? L'année dernière, il a prouvé à tout le monde qu'il était capable de tenir 3 semaines, malgré ce que tout le monde disait. Est-ce que cette année, il peut faire passer l'étape supérieure et pourquoi pas aller titiller Christopher Froome pour la victoire finale? Adrien ?
Comme je viens de le dire, Porte pour moi est l'homme le plus fort actuellement. Il m'a impressionné sur la dernière étape du Dauphiné malgré le fait qu'il lâche. Et s'il a lâché, c'est plus par défaillance tactique que physique. Cependant, je pense qu'il va craquer sur une étape. Il y a pas mal d'étapes qui sont très difficiles. Celle de Chambéry, il va la passer. Par contre, celle deux fois sur 100 km. Ça peut être trop difficile pour lui, ou même celle du Galibier. Je ne vois pas Porte jouer la victoire lors du contre-la-montre de Marseille, malheureusement, parce que j'aime beaucoup ce coureur.
Ok. Après, Porte, pour moi, c'est le favori de la planche des belles filles. Hein. C'est le genre de difficulté, oui. C'est le meilleur du monde actuellement sur les montées de 5, 6, 7 km. Voilà, le mec est imprenable, c'est impressionnant. je vois pas qui pourrait le battre à part un échappé ou peut-être un Quintana de fait, je sais pas.
Et peut-être un coureur transalpin, un coureur sarde, suivant le regard.
Ah, on va en parler de ce coureur, il n'y a pas de souci. Richie Porte, en attendant, Lucas, ton avis sur le coureur australien ?
Non, c'est le deuxième favori. D'après les bookmakers, c'est le premier. Pour moi, il est un peu derrière. Je mettrai un petit bémol sur son équipe, quand même. Ça va être très, très compliqué de suivre l'allure quand les skies vont embrayer. Il y aura que Caruso, puis comme tu disais, peut-être Nicolas Roche, mais bon, je crois pas des masses. Il peut très vite se retrouver esselé en fait, Richie Porte. Et on a vu que sur le Dauphiné, quand il est esselé et que tout le monde l'attaque, au bout d'un moment, il craque et il répond pas. Enfin, il va pas rechercher tout le monde. Et ça peut être un problème. Cependant, j'espère qu'il a quand même appris la leçon depuis. Il a perdu quand même une belle course sur ça En plus, se faire battre par Fuglsang au niveau de l'ego, je pense que il l'a un peu mal pris. Je sais pas. À la fois, je le vois très fort, et en même temps, il y a quelques lacunes. Moi, je suis pas un grand fan de Richie Porte, hein, c'est voilà, c'est comme ça. Mais je le vois sur le podium, évidemment. Enfin, là, s'il est pas sur le podium cette année, il gagnera jamais un grand tour. Quoi.
Ouais. Et ouais, et en parlant de l'équipe, moi ce que je trouve impressionnant, c'est qu'il soit si peu entouré, alors que c'est vraiment l'objectif, son objectif de l'année. Je trouve limite que l'équipe qu'il y avait sur le Giro était presque plus forte en montagne. Où sont, bon, Manuel Seny, Van Garderen, ils étaient sur le Giro, donc oui, pourquoi pas. Mais voilà, à part Caruso, il a personne derrière. Quid, il y avait Hermann aussi qui était sur le Giro, qui aurait pu être aussi un bon coureur pour l'aider. Mais Samuel Sanchez, il aurait pu être sur le Tour de France aussi, même si, à mon avis, c'est parce qu'il vise la Volta, et il sera sans doute leader là-bas. Même si Van Garderen a évoqué le fait de pourquoi pas la faire lui aussi. Donc moi ce qui m'interroge quand même c'est la composition de la BMC qui vraiment il y avait moyen de faire bien mieux au départ de la saison autour de Richie Porte, parce que là
pour la première semaine c'est pas mal, parce que il y a vraiment des
oui.
Y a des mecs comme De Marquis, Stefan Kung, attention à Stefan Kung d'ailleurs, et puis Mickey Scher.
Même Van Avermaet aussi, en tant qu'équipier, ouais. S'il joue pas la gagne, c'est le meilleur équipier du monde pour protéger Froome, Porte, pardon.
On sait que Richie Porte, c'est souvent dans les premières étapes où il perd bêtement 2 minutes ou 1 minute 30 et il se retrouve vite à jouer le top 5 au lieu de jouer la victoire. S'il arrive après les rousses bien lancées sur le podium, hein, pourquoi pas, peut-être même en jeune, j'en sais rien. Mais s'il est vraiment bien placé, ouais, ce sera podium à la fin, à mon avis. Hein. Il ne va pas craquer comme ça sur son plus gros objectif.
Ok, ok. Alex ?
Ah, bah, Richie Porte, moi, c'est le coureur qui m'a le plus impressionné de tous les autres, par peut-être Quintana, mais dans une moindre mesure, sur son avant-tour avec des victoires à l'appel de très bonnes places un peu partout. Et j'en fais logiquement mon favori pour la victoire finale, 6 ans après Cadel Evans, voilà, le deuxième Australien à remporter le Tour. Je sens qu'il est supérieur à tout le monde sur les chronos, donc ça va être vraiment son fort, surtout sur le dernier chrono de Marseille qui devrait parfaitement lui convenir. Alors, petit bémol, c'est bien sûr son équipe qui va vraiment lui porter ça va être assez compliqué, mais je pense que avec l'expérience qu'il a acquis à la Sky, je pense qu'il sait, qu'il connaît la tactique de la Sky, qu'il sait comment il fonctionne, et donc qu'il sait ce que la Sky va faire, et donc ce que son premier concurrent, Christopher Froome, va faire. Donc ça va être assez intéressant, surtout au niveau des étapes de montagne. Et Froome et Porte, le duel entre Froome et Porte dans les Alpes et dans les Pyrénées va être intéressant à suivre, même si je vois Porte en sortir vainqueur.
Ok, donc je remarque que beaucoup d'entre vous voient quand même ce Tour de France comme un duel Froome-Porte. Ça veut dire que vous éliminez de la lutte l'autre coureur qu'on va évoquer de suite, Nairo Quintana, bon, qui reste quand même sur un échec sur le Giro, qui a avec lui aussi un équipier assez encombrant qui s'appelle Alejandro Valverde, qui se verrait bien lui aussi, pourquoi pas, terminer dans le top 5, voire mieux, de ce Tour de France. Donc, Nairo Quintana, donc, surtout la grande interrogation, c'est est-ce qu'il sera à son meilleur niveau après
son échec ? Est-ce qu'il sera attaqué ?
Voilà, aussi, mais est-ce qu'il sera à son meilleur niveau après son échec sur le Giro ? On sait que l'enchaînement Giro-Tour, c'est un truc que les coureurs ont tendance à plus trop faire, parce qu'on sait que souvent on a un contre-coup sur le Tour de France. Mais Quintana, on sait que niveau endurance, c'est un des coureurs les plus exceptionnels du peloton. Donc on se dit que s'il y en a un qui peut encaisser cet enchaînement Giro-Tour, c'est peut-être lui. Et d'après ce que j'ai lu, il y a son entraîneur qui a dit en interview récemment que sur ces dernières semaines, il affichait des performances purement physique, assez exceptionnel, c'était les meilleurs qu'il ait jamais fait de sa carrière. Donc, est-ce qu'info ou intox, hein, on aura vite fait la réponse dès les premières pentes au mois de juillet. Mais en tout cas, il semblerait que Quintana, si on écoute son entraîneur, soit potentiellement capable de jouer justement la victoire sur le Tour de France. Et voilà, j'ai envie de vous entendre. Est-ce que d'après vous, il peut le faire également ? Donc, cette année, c'est vainqueur du Tour de Valence, c'est vainqueur du Tirreno, c'est deuxième du Tour des Asturies, et c'est donc deuxième du Giro. Et à ses côtés, il a quand même une sacrée bonne équipe, enfin, il a surtout un sacré bon équipier, mais est-ce que c'est vraiment un équipier? Il s'appelle Valverde, bon, qui lui, sa saison 2017, c'est exceptionnel, c'est Ruta del Sol, c'est Catalogne, c'est Pays Basque, c'est Flèche Wallonne, c'est Liège-Bastogne-Liège, tout ça dans la poche. Récemment, c'est neuvième du Dauphiné et deuxième de son championnat national. Donc voilà, en fait, je vous demande un package sur le duo de Movistar, Quintana-Valverde. Est-ce que ces coureurs vont attaquer? Est-ce qu'ils vont se mêler à la lutte finale? Lucas?
Bah, Quintana, sur la passité avant, pour moi, c'est une place sur le podium. C'est-à-dire que c'est un mec tellement régulier, tellement fort, que même s'il est un peu en dedans, il arrivera toujours à être parmi les meilleurs. Après Valverde, il faudra voir son rôle. Parce que c'est pas... C'est jamais vraiment très clair, en fait. Alors, Valverde est toujours équipier de Quintana, mais quand il faut se mettre vraiment à la planche, il devient un co-leader. Là, c'est vraiment, il va falloir décider. Vu la tactique Movistar durant le Giro, j'ai un peu peur. j'ai l'impression que ça va encore être une belle arnaque, ça. Donc, j'espère vraiment que Quintana sera au niveau pour qu'on ait une bataille exceptionnelle pour le maillot jaune. J'ai pas envie de voir quelqu'un qui a 3 minutes d'avance avant même les Pyrénées ou enfin bah, ouais avant même les Pyrénées. Enfin, je faut que Quintana soit au niveau pour qu'il y ait un beau Tour de France. Après son Giro, il est pas si mal. Il gagne sur le Tirreno. Il fait une belle saison quoi. Il est en forme. Il y a pas de raison de le voir échouer.
D'accord, ok. Alex, ton avis sur Quintana et Valverde? Et est-ce que Quintana sera son meilleur niveau sur le Tour? Parce que c'est quand même l'interrogation
Nero
qu'on a.
Quintana, c'est aussi une interrogation parce que je ne sais pas comment a-t-il géré la transition avec le Giro. Quel sera son état de forme sur le Tour? Est-ce qu'il a bien récupéré de son Giro? Est-ce qu'il pourra viser la victoire sur le Tour? Ou est-ce qu'il visera seulement le podium? Pour moi, Quintana, ça va être quelqu'un qui va suivre le mouvement, en fait, qui n'a pas vraiment attaqué, qui va plutôt se contenter de suivre, surtout sur les premières étapes de montagne, et ensuite qui va décider en fonction de son état de forme si, oui ou non, il doit continuer de viser soit la victoire, le podium, le top 10, et ainsi de suite. J'en fais pas un de mes favoris pour le podium, même si j'en fais bien sûr l'un des favoris pour le top 5. Je le vois pas aller vraiment à la lutte avec les meilleurs, mais on sait jamais, hein. Il a une équipe très solide autour de lui, capable une nouvelle fois, enfin peut-être pas capable de concurrencer la Sky, mais capable en tout cas de poser des problèmes à la Sky. Après l'interrogation Valverde, c'est vrai que ça va être compliqué parce que chaque année il nous fait Valverde refuse de travailler pour Quintana s'accroche tout le temps à Quintana, on voit le résultat, généralement Valverde termine une place en dessous de Quintana à chaque fois. Donc on verra, peut-être que si cette fois-ci, je pense que Valverde terminera devant Quintana, du fait du doublé du retour qui a peut-être dû user un peu le Colombien un peu plus que l'Espagnol.
D'accord, voilà. Ok. Et t'évoques effectivement son équipe, donc... Effectivement, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'ils seront sans doute deux sur le final des étapes difficiles avec donc Quintana et Valverde. Mais quand même derrière, en fait, c'est une équipe assez solide, mais c'est pas non plus la meilleure équipe qui aurait pu être. Hein. Parce qu'on a Amador qui sort du Giro, un Giro qui l'a terminé complètement cramé. Je suis pas sûr qu'il soit forcément d'un énorme secours sur le Tour de France. Alors après, espérons qu'il ait bien récupéré, mais bon, le mystère domine là aussi. Ensuite, il y a Errada, Castroviro. Ouais, ça rime pas trop mal, mais c'est pas exceptionnel. Et il y a Betancourt. Alors, bon, on a vu sur les Hammer Series que Betancourt y voltigeait, mais bon, c'est Betancourt, quoi. C'est-à-dire que le mec peut aussi terminer avant-dernier de l'étape qui suit. C'est Betancourt, c'est un facteur X, c'est pas une assurance tour X. Assurance tour X, non, ça c'est dans Astérix. Hein. C'est pas une assurance tour risque, Betancourt. Et quand je regarde l'effectif de la Movistar, on aurait pu voir un Ruben Fernandez, on aurait pu voir un Izaguirre, on aurait pu voir un Moreno. Voir un Solaire, voilà, Solaire surtout. Bon, même si peut-être qu'ils veulent le préserver parce qu'il est peut-être un petit peu jeune, je sais pas. Mais
la Vuelta aussi.
Voilà, c'est ça. Mais sur le papier, il y avait quand même moyen de rajouter 2-3 grimpeurs un petit peu meilleurs aux côtés de Valverde et Quintana. Hein. Je sais pas vous, mais voilà quoi. Adrien?
Non, mais moi je pense que le duo Valverde-Quintana se suffit à lui-même. C'est vraiment le meilleur duo qui se fait. Hein. Je regarde la start de la Sky, même Froome Landa, Froome Henao, Froome Nieve, c'est moins fort que Quintana Valverde. Je suis pas sûr que Valverde ait besoin de quelqu'un d'autre que Quintana. Quintana n'a pas besoin de quelqu'un d'autre que Valverde. Ça suffit. Ils seront tous les deux prêts. Ils seront tous les deux là. Même Quintana jouera la victoire comme il le fait à chaque fois. Quand il finit depuis qu'il est chez Movistar, il n'y a que son premier grand tour en 2012 où il fait 36e. Sinon, il a tout le temps joué la victoire des grands tours auxquels il a participé. Il sera là. Lucas disait, il faut que Quintana soit au niveau pour avoir un beau Tour de France. Ben, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire justement, il faudrait qu'il soit pas au niveau pour attaquer. Parce que quand il est vraiment au niveau, bah, il suit et c'est un mouton, il fait rien. Donc non, moi j'aimerais bien qu'il soit un peu en deçà de ce qu'il montre habituellement pour pourquoi pas attaquer. Même si bon bah il y a Valverde, donc il n'aura pas de ski quoi qu'il arrive. Mais là les deux movie stars seront là, comme d'habitude ils nous feront rager et voilà.
Mm. Bon, tu dis qu'il n'y a pas meilleur comme duo, mais le problème c'est qu'il n'y en a aucun des deux qui se met au service de l'autre. Du coup ça réduit quand même vachement les possibilités tactiques d'avoir deux mecs.
Je suis pas d'accord avec ça, vous savez, parce que c'est l'étape de Pino qui en 2015 à l'Alpe d'Huez, il me semble que Valverde et Quintana font une team attaque dans le col précédent, non?
Alors, moi je me souviens surtout de Serpa qui est de Quintana.
Oui, mais je crois que Valverde est le premier relais, il me semble. Hein. Mais moi, j'ai déjà vu Valverde se mettre au service de Quintana. Hein.
Oui, bien sûr, marche. Mais il pourrait le faire tellement plus souvent que ce
qu'il C'est ça. Ça arrive de temps en temps.
Même mais il joue placé, il joue les points. Hein.
L'année dernière aussi, il avait tenté 2-3 offensives en essayant de déstabiliser le train Sky, mais il s'était déjà fait rattraper assez rapidement. Mais même, on sent que c'est pas qu'il met jamais toutes ses billes dedans. Quoi. C'est ouais, je vais attaquer par là un petit peu pendant 30 secondes, on va voir ce que ça donne. Mais jamais c'est un mec qui va se mettre. Enfin, il n'y en a aucun des deux qui se met à plat ventre pour l'autre. C'est-à-dire qu'il joue trop la sécurité.
C'est pas une
pour...
ouais.
Voilà, mais ils se mettent. Tous les deux, ils assurent leur passe au général plus que. En fait, ils visent tous les deux la placette, au lieu de. Que l'un des deux vise la victoire et que l'autre termine loin. C'est plus ça. Et d'ailleurs, c'est le reproche qu'on fait beaucoup au Movistar. Même si Quintana n'est pas si inoffensif que certains voudraient l'entendre. Hein. Moi, je trouve que c'est plus les tactiques d'équipe, aux côtés de Movistar qui sont parfois bizarres, plus que vraiment Quintana qui fait que suivre. Oui, c'est pas le plus offensif du monde, mais Quintana, c'est pas non fait. Quand il peut attaquer, il le fait quand même.
On l'a vu sur le... Ça va qui me font penser à Quintana Valverde, à deux frères qui couraient le tour il y a quelques années.
Enfin non, alors là, c'est niveau au-dessus les deux frères, hein, parce que
sans déconner, je parle pas des Chavanel, hein, attention.
Oui.
Amazon.
C'est ça. ça doit être cela.
Mais j'ai souvenir qu'on dit attendez Franck et que les deux ne faisaient pas forcément des très bonnes tactiques.
Non mais ne remue pas ces vieux souvenirs là quand en 2009 on dit avec un Tour de France dans chaque cuisse et qu'il attendait son frère, mais c'est pas possible ça.
Non, voilà. Et oui, dans le Ventoux il se retourne et oui.
Enfin, en 2009, il doit y avoir Andy Schleck doit mettre 5 minutes à tout le monde. Enfin, c'est pas possible. Enfin bref. 2009 ou 2011, je sais plus quel est deux. Il y en a. Bref. Non, c'est 2011, c'est l'année de la victoire de Evans. Où oui, il doit cramer tout le monde 20 fois.
Voilà. Mais Thomas Vauclair était tellement fort cette année-là que.
ça doit être ça. Du coup, on continue avec un côté un petit peu espagnol, puisqu'on va continuer avec Contador. Qui cette année est abonné aux deuxième places, hein, voilà, donc deuxième de la Ruta del Sol, deuxième de Paris-Nice, deuxième du Tour de Catalogne et deuxième du Tour du Pays Basque. Et récemment.
Et troisième du Tour.
Voilà, ça, c'est ton pronostic. Mmh. Récemment, 11e du Dauphiné. Contador qui ne gagne plus, hein, quand même. On avait fait un petit débat sur un podcast au début de l'année, après Paris-Nice, je crois. Est-ce que Contador gagnera encore une grande course dans sa carrière avant sa retraite? Je pense que la plupart des gens avaient répondu oui à cette question, si je me rappelle bien de mémoire. Mais là, les mois passent et finalement, on se rend compte qu'il est de moins en moins impressionnant. Ça reste un très bon coureur, mais on a l'impression qu'il ne fait plus partie du top niveau en matière de grimpeur. Alors, peut-être qu'il va nous faire mentir sur ce Tour de France. Est-ce que vous pensez que c'est le cas ou pas, Lucas?
Ouais, il ne fait plus partie vraiment de ceux qu'on place sur la première marche le 23 juillet, mais en même temps, chaque année, j'ai l'impression qu'il annonce sa retraite en fin d'année, donc on se dit, bon, bah, c'est la fin, c'est fini, Contador, il va arrêter. Au final, il revient, là, je crois qu'il a re-signé...
Ouais, il reste en 2018, normalement.
Ah ouais, c'est sûr,
Alors, moi, on m'a dit ça au début de l'année, j'étais pas au courant, en plein milieu de podcast, on m'a dit, non, il reste en 2018.
Je confirme.
Donc, voilà. C'est confirmé, donc bon, voilà, j'ai l'impression qu'il est parti, maintenant qu'il est à la trek, il a un plan... enfin il a un plan, je pas une très bonne expression.
Mais
il a voilà, il est dans une continuité, donc il va forcément être présent sur le tour. Il a une très très bonne équipe encore à côté de lui. Faudra voir les gens qu'il a, quoi. C'est Contador, est-ce qu'il aura de la malchance aussi au début? Ça fait quand même 8 ans qu'il a pas gagné le tour, quoi. Enfin, j'ai l'impression que ça... ça fait beaucoup trop de temps pour revenir et gagner en 2017 comme ça. Ouais. Ça me semble compliqué, quoi, surtout à 34-35 ans.
Mais comme tu dis, il a effectivement une bonne équipe avec. Bon, alors malheureusement, le petit fait dopage du mois de juillet, c'est le contrôle positif de Cardozo à l'EPO juste avant le départ, là.
Bravo.
Du coup, ouais, c'est ça, magnifique, hein, un Portugais. Remplacé par Aymar Zubeldia. Qui du coup
Aymar.
Voilà, il devient le coureur, le vétéran du Tour de France cette année, je crois, parce qu'il a 40 ans. C'est maintenant. Et donc Zubeldia, Pantano aussi, qui en début de saison,
il nous avait fait un sprint dans le col de la Couillole, je crois.
Ah, sur le Paris-Nice, c'est l'équipier de l'année. Enfin, il s'est mis à plat ventre pour quand on parlait justement de Valverde et Quintana qui se mettaient pas à plat ventre pour l'un pour l'autre. Pantano sur le Paris-Nice de cette année, oh là là, il nous a fait du travail, c'était magnifique. Il est là. Il y a Mollema également qui arrive après son Giro plutôt bon, 7e, pas trop mal. Et moi, je rajouterais aussi potentiellement dans les équipiers intéressants Féliné, qui est capable, qui passe partout. Même en montagne, il est capable, je pense, de bien dépanner. Du coup, voilà, effectivement.
Et Gogol aussi, hein, c'est vraiment un bon coureur aussi.
Gogol,
autrichien.
Le jeune, il a 22 ans, je crois, ouais, effectivement. 22 ou 23 ans, effectivement. Donc voilà, une bonne équipe autour de lui, mais bon, voilà, peut-être des jambes qui ne sont plus les jambes de sa jeunesse, et du coup, peut-être qu'il sera un petit peu court pour jouer, même pas la victoire, je pense qu'il sera peut-être un petit peu court pour jouer le podium. Moi, je le vois plutôt dans les 5, je ne sais pas ce que vous en pensez, Adrien.
Moi, je n'avais pas trop d'idées sur Contador, donc du coup, j'ai additionné toutes ses places dans les classements généraux cette année. J'ai divisé par son nombre de courses, ça me fait 5,66, donc du coup, je vise une 6e place. Ouais, je sais pas trop. Moi, je pense qu'il peut gagner une Vuelta. Mais alors, le Tour, il a plus les jambes, il est flagada là. Même Bardet meilleur que lui. Donc, si Cardozo avait été présent, Contador aurait pu gagner le Tour. Heureusement, Cardozo n'est pas là, il gagnera pas.
Dommage. Du coup, par contre, ce qui veut dire que si justement il n'est pas en lutte pour la victoire finale, ça peut être justement un de ses animateurs à la Raves, comme dit Alex. Pourquoi pas justement voir un
Contador. En espagnol, ça se prononce comme ça.
Raves.
Non mais Chavez. Du coup, un Contador potentiellement très offensif, et donc du coup, même s'il ne joue pas la victoire, un Tour de France plaisant de sa part. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alex.
Contador, je sens comme l'un des grands animateurs en montagne qui va faire sauter la poudrière. Je sais pas si ça se dit, enfin bon. En tout cas, il va la faire sauter. Et ça va être l'un de ceux qui va animer, je pense, notamment l'étape du Galibier qui est faite pour lui. Et je pense honnêtement que Contador a les moyens de viser le podium et de... battre des gens comme Quintana qui viseront, ou Haru qui viseront la même chose.
Et alors, juste pour conclure sur Contador, il n'a toujours pas gagné cette année. Est-ce qu'il gagnera une étape sur le Tour de France? Parce que c'est une des interrogations que j'ai. C'est-à-dire que oui, Contador, il fait beaucoup de deuxième place, mais j'ai l'impression qu'il n'a plus le petit punch qui lui faisait gagner des victoires auparavant. Voilà, comme vous le dites, les années se font sentir. Est-ce que cette année, on aura une victoire de Contador sur le Tour de France? Oui, non. Alex? Oui. Ok. Lucas?
Non.
Adrien?
Non plus, mais ce sera une question du jeu qui sortira sur le forum du groupe Eto jeudi à 18h.
Oh, le teasing, voilà, magnifique.
Soyez présents.
Magnifique. Très bien.
Contador, si à un moment il se retrouve 7-8e du général, au moins on peut être sûr qu'il ne va pas la garder cette place. Il va attaquer, il va essayer de remonter dans le top 5, quitte à passer 11e, 12e, enfin voilà, il s'en fiche.
Ouais.
Il va faire la course. Et ça, c'est ce qui est bien au moins avec Alberto Contador.
Très bien. Passons du coup à Cocorico. Attention, Lucas, je compte sur toi là pour me soutenir. Romain Bardet.
Romain Barguil ? Ah non.
Non. Romain Bardet, donc. Qui cette année en a pris un petit peu plein la gueule grâce à ses magnifiques interviews d'avant-course qui sont catastrophiques, on va pas se mentir. Mais bon, toujours est-il qu'Romain Bardet, cette saison, c'est pas forcément... il est en deçà de ses objectifs. Bon, 6e sur le Tour de Mans, 2e au Tour d'Abu Dhabi, 10e en Catalogne, 15e au Pays Basque, 6e de Liège-Bastogne-Liège, 6e du Dauphiné. Enfin bon, c'est clairement en deçà de ses temps de passage, j'ai envie de dire, et surtout en deçà des temps de passage que devrait avoir un mec qui a terminé second du Tour de France l'année dernière. Donc, est-ce que, à votre avis, le podium est encore une fois possible? Parce qu'on va pas se mentir, l'année dernière...
Non.
Il a terminé second parce qu'il a bien géré tactiquement, et puis il y a eu des circonstances de course, ça a été un Tour de France particulièrement, disons, attentiste. Du coup, les écarts étaient assez resserrés, du coup, un bon coup tactique, et hop, il est de suite remonté très très haut.
Coup de folie.
Voilà, c'est ça, le coup de folie. Est-ce que cette année, il peut refaire un podium sur le Tour de France? C'est la vraie question que j'ai envie de te poser. Et Lucas, je te donne la parole. Défends-moi, Romain.
Eh bien, non. Non. Il pourra pas faire de podium cette année. Enfin, je prédis pas l'avenir, hein, mais pour moi non, c'est trop de monde, pas assez. Et il a pas fait une assez bonne saison. La seule chose qui pourrait me faire dire oui, c'est qu'il revient en forme sur le Dauphiné et vaut mieux ça que l'inverse. Vaut mieux qu'il ait eu un début de saison compliqué, une exclusion sur Paris-Nice ridicule. Catalogne, Pays Basque, il les a fait, c'était vraiment moyen. Tandis que là, sur le Tour, il arrive avec une 6e place au Dauphiné. Un Dauphiné qui était quand même assez relevé, donc c'est assez solide. Par contre, 6e, c'est aussi sa place à Liège-Bastogne-Liège. Et si je devais me livrer un prono, ce serait aussi sa place sur le Tour de France. Je le mettrais bien 6e. À la lutte pour la 5e place, mais pas avec le dénouement de l'an passé, où il termine 2e... Voilà, c'était magnifique pour lui, pour moi aussi, quoi. J'ai adoré, mais là, voilà, faut déjà qu'il vise un top 5. Je pense que lui non plus ne se voit pas sur la première marche. De toute façon, il a dit qu'il, dans une interview, je ne sais plus où, il dit qu'il ne court pas pour gagner le Tour.
Par contre, pour faire la meilleure performance.
Oui, voilà, la meilleure performance. Et pour moi, un top 5, ce serait déjà une très bonne performance.
D'accord, très bien. Alex, ton avis sur Bardet? Bardet qui d'ailleurs fait partie des coureurs qui vont être très contents qu'il n'y ait que 36 km de contre-la-montre cette année, hein.
Alors Bardet, il ne sera pas à la lutte pour la victoire, ni pour le top 3, ni pour le top 5. Il sera à la lutte pour la 9e place, je pense. Concernant Bardet, son début de saison était vraiment compliqué, puis ensuite un Tour de Catalogne bien raté, où il s'est vraiment troué. Il s'est un peu remis sur Liège-Bastogne-Liège. Je pensais qu'il allait revenir fort sur le Dauphiné et accrocher un top 5, en fait, pas du tout.
Il n'est pas si bon du top 5.
Oui, là il y a de l'exagération. Là,
c'est parce que sur le chrono il est pas bon, mais sinon il fait une très bonne fin de Dauphiné.
Voilà. Et puis un Tour de Catalogne catastrophique, il termine 10e, quoi. C'est voilà.
Et puis il a 30 secondes de la 3e place.
Il termine derrière George Bennett quand même, je crois.
Ouais, George Bennett qui a gagné le Tour de Californie, hein. C'est pas n'importe qui, hein. Attention.
Ouais, enfin Julien Alaphilippe a aussi gagné le Tour de Californie.
Bah c'est pas n'importe
Ouh,
qui.
Ouh, ça parle mal là. Attention, qu'est-ce qui se passe. Vas-y, continue Alex sur Romain.
Donc pour moi, je pense pas que Romain Bardet puisse faire une excellente performance. Moi, je le vois plus au mieux 7e, au pire hors du top 10. Bardet, c'est un gars que je vois peut-être faire quelque chose sur une longue échappée dans les Alpes. C'est un très bon grimpeur, hein, je nie pas ses qualités, mais je pense que sur des courses de côte, déjà comme la planche des Belles Filles par exemple, je vois absolument pas rester avec les meilleurs, et surtout il va se prendre des tirs monumentaux sur les chronos, sur les deux chronos qu'il y a. Donc pour moi, Bardet, à part si vraiment il fait un tour exceptionnel et il s'accroche avec les leaders, pour moi...
Ouais, il va s'accrocher avec les leaders quand même. Mmh. Ah, j'espère ouais, bien, non, là, je trouve Alex, ouais. Là, c'est dur parce que... ok, il n'a pas fait un bon début de saison, mais enfin, Bardet, il fait partie des cadors quand même. Hein. Je pense que. Alors, les bookmakers, Théo, est-ce que tu as.
Alors là,
la cote.
La cote pour le podium de Bardet est à 7.
Ah, ouais. Bon, c'est pas top. Mais...
Ah, ça fait quand même partie. Je crois qu'il est 5 ou 6ème, un truc comme ça. Mais bon, ouais, non, ouais. Je trouve qu'effectivement, t'es très dur, Alex, avec Bardet. Surtout que Bardet, bon, même. Enfin, surtout. Une des grosses qualités de Bardet, c'est que je trouve qu'il sera très rarement sur ses objectifs, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec, c'est inassurant, c'est fait partie des mecs qui sont assez réguliers, quoi. Pinot, est moins régulier que lui, même si intrinsèquement, il est peut-être meilleur en haute montagne, il voltige plus quand il est rentré fort. Bardet, lui, c'est vraiment un mec qui, lorsqu'il a un objectif qui est calé dans son, avec son pic de forme, lui, tu peux être sûr qu'il ne va pas se rater. Le problème avec l'un de ses objectifs du début de saison, c'était, c'était Paris-Nice, et que malheureusement, il est resté accroché à sa bagnole. Il s'est, c'est pas qu'il a raté son objectif parce qu'il n'était pas assez fort, c'est qu'il a raté parce qu'il a fait une connerie avec son équipe et qu'il s'est fait exclure. Mais fait, voilà, moi, Bardet, ça fait partie...
Quand on voit le plateau qui sera devant lui, on aura déjà devant lui, il y aura Froome, Porte, Quintana, Contador, Haro, Chaves...
Alors moi, je suis désolé, je mets pas tous ces mecs devant lui, en termes de...
Je sais pas s'il est pas devant Bardet.
Voilà. Bon, alors, très bien.
C'est que des mecs qui ont fini derrière Bardet l'ont passé, hein, pratiquement.
C'est ça, c'est
Porte, Quintana, tout ça. Hein.
Du coup,
non,
Adrien...
Personnellement, je ne verrai pas Bardet... plus haut qu'une 7ème place.
Très bien, ouais, très bien.
Mais je ne demande qu'à voir, après tout. Bardet, c'est quelqu'un qui a des qualités de grimpeur, qui l'a prouvé de nombreuses fois par le passé. On n'est pas à l'abri qu'il fasse la même chose que l'année dernière, avec un peu de chance. Hein.
Très bien, très bien, très bien. Adrien, ton avis sur le coureur français, on t'a pas entendu. Et surtout, potentiellement aussi évoquer la densité, la fameuse densité d'AG2R, qui a autour de Romain Bardet Latour, Franck, Villermoz, Backlands et Gauthier. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc,
J'ai envie de vous citer une phrase que Bardet a dit en interview au mois de mars. Deux points, ouvrez les guillemets. Plus je serai fort, moins je souffrirai. Voilà, tout est dit sur Bardet. J'ai pas envie d'en parler, je l'aime pas. Voilà.
Ah ouais, d'accord.
C'est-à-dire non, que... je rigole. Plus sérieusement, Bardet, je le vois faire un top 5.
Ah, et finalement...
Mais non, mais je l'aime pas trop, ce gars-là, mais je le vois faire un top 5 malgré tout. C'est un super coureur. Il est toujours là quand il a des objectifs. Hormis sur Paris-Nice, bon, c'était un fait extra-sportif. Je lis plus ses interviews, mais sur le vélo, ça reste un super coureur. On se moque de son côté « je vais attaquer, je ne le fais pas ». Mais c'est quand même l'un des coureurs les plus offensifs du peloton. Bon, après, on n'a que des petites bites, mais... Voilà, je vois Bardet faire un top 5. J'en dirai pas plus. Par contre, son équipe est très costaud. Mason, Franck, Villermoz, Gastauer, Gauthier. Latour.
Oui, Latour, non, surtout aussi.
Latour, ça va être l'atout de Bardet, en fait, avec c'est Mathias ça. Franck.
Ah, je suis pas sûr. J'ai l'impression que Latour va... Moi, j'ai cité Latour parce c'est que...
C'était l'étape.
Mais non, moi, je pense que Latour, il fera rien. Je le vois pas au niveau.
Ah, d'accord.
Bah, c'est son premier tour, non?
Ouais, il découvre.
Ouais, du coup, il va peut-être être en rodage, se mettre sur les...
Enfin, Bardet, sur son premier tour, il fait 15e. Hein.
Donc, ouais, mais la tour est moins fort.
Ah oui, c'est certainement. Ouais.
Bon, après, il faut quand même dire que la tour, pour son premier tour de France, on en parle déjà potentiellement sur le... Pourquoi pas, bon, pas jouer la gagne sur le maillot blanc, mais être sur le podium. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura forcément des mecs qui pour le maillot blanc qui seront devant lui parce que eux ils viseront plus au général, ce seront les premiers leaders dans leurs équipes. Mais la tour, il y a moyen qu'il fasse. Je sais pas pourquoi tu le vois forcément moins fort alors qu'il vient gagner le
podium. Hein. Il fera pas un podium sur le maillot blanc. Il y a Buchmann, Mentis et Yates.
Oui, voilà, c'est pour ça que je te disais qu'il y a forcément un ou deux mecs qui vont être devant lui pour, parce que ce seront les vrais leaders de leurs équipes. Mais la tour, pour moi, je trouve pas ça surprenant de le voir entre la 12e et, enfin, entre la 10e et la 15e place, un truc comme
ça. Je suis d'accord avec toi, mais
Mais Bourgman, il va bosser pour Maïka.
Non, Lopez, il n'est pas le tour.
Oui, Lopez, il n'est pas là. Non, fracture du pouce.
Bourgman, il va plus bosser pour Maïka comme la tour va bosser pour...
Je suis pas sûr, hein, Bourgman.
Je l'ai aussi dans stock, hein. Attention, vous précisez.
Bourgman, moi, j'ai lu sur le forum l'observateur Béo Barter qui nous a dit que Bourgman, peut-être pas aussi fort que sur le Dauphiné.
Ah, très bien.
Moi, je vois Bourgman faire peut-être un fond de top 10.
C'est parfait. C'est une
des grandes questions avec l'équipe avec deux leaders. Quoi. Même chose qu'Orica, d'ailleurs.
Enchaînant donc parfaitement donc avec Majka, c'était pas forcément celui que j'avais suivant sur la liste, mais bon, puisque vous parlez de Bourgman, donc du coup, effectivement, parlons de Maïka et Bourgman, qui sont tous les deux dans l'équipe Bora, et qui sont les leaders de l'équipe, alors même si quand même, moi je pense que quand même, ça sera Maïka le vrai leader, hein. Bourgman, ça sera vraiment l'équipier d'appoint, même s'il reste sur une belle 7ème place sur le Dauphiné, après, il a fait aussi 2e de son championnat national, donc il est quand même, il est en forme Bourgman, mais Arrivé de gagner le Tour de Slovénie. Bon, Tour de Slovénie, on va pas se mentir. Hein. J'ai pas regardé contre qui il avait gagné, mais à mon avis, ça doit pas être très flamboyant.
Il a gagné devant les terribles Jack Haig et Gregor Mühlberger.
C'est ça.
Champion d'Autriche.
Alors moi, Maïchka, il me fait très peur, parce que sans déconner, Maïchka, parce que là, il vise le général du Tour de France, donc il va pas viser le maillot à poids. Donc là, on va voir le visage raton de Maïchka. Ça peut être le cancer de ce Tour de France, hein, je vous le dis. Hein. Ça peut être le mec qui va attaquer zéro fois et qui va être toujours là et qui va terminer dans les cinq premiers au final. Moi, il me fait, ça, j'ai très très peur que ce soit ça, Maïchka. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà.
Ah, c'est un peu ce que je crains, oui. Pour Maïchka, qui pourtant, quand il attaque, peut être un super grimpeur. Là, je pense qu'il va se contenter de suivre. S'il a une opportunité, peut-être qu'il va en placer une. Mais bon, il n'aura pas non plus 10 cartouches sur l'ensemble du Tour de France. Donc, il va faire attention. Et il va être plutôt économe, à mon avis, pour avoir sa place au final. Ouais, c'est ce qu'on peut craindre. Sinon, il va être à la lutte, comme on disait, avec les Fabio Aru, Dan Martin.
Ouais, etc. Ouais.
Tout ça. Hein.
Ouais, bah, Maïchka, c'est double face, quoi. Hein. C'est le mec qui est flamboyant quand il vise les étapes et qui, quand il vise le général, c'est un
cancer. Ils sont beaucoup comme ça. Hein.
Ouais, non, mais lui, c'est incroyable quand même. Hein, parce que là, il nous a sorti un Giro l'année dernière, je crois. L'année dernière, le Giro qu'il nous a sorti, c'était pas possible, quoi. Enfin, voilà, Maïchka, c'est vraiment c'est tout ou rien, quoi. Et là, vu qu'il vise le général cette année, j'ai l'impression que ça va être rien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, Alex, Adrien.
Ouais, alors Maïchka, enfin, s'il saute sur une étape, c'est fini pour lui en même temps. Mais s'il saute très tôt, sur la planche des belles filles ou sur le Mont du Chat, et que c'est terminé, il va mettre le feu dans les Alpes en essayant d'aller chercher une étape.
Il faut qu'il saute aussi.
Ouais, il faut qu'il saute. Mais l'étape du Mont du Chat, s'il n'est pas bien, ça peut aller très vite.
C'est pareil pour les autres, hein.
Oui, c'est sûr. Mais après, Maïchka, oui, il est très régulier aussi, Maïchka. C'est un petit peu Romain Baff. Enfin, c'est pas un mec qui craque trop, je trouve. Hein, c'est pas un mec qui a trop des jours sans, justement. J'ai l'impression que ça fait partie de ces coureurs qui sont assez réguliers, qui sont pas partie du top mondial en termes de grimpe. Hein. Voilà, ils sont juste en dessous, mais étant donné qu'ils sont très réguliers, ils arrivent à faire des bons classements. Et vu la moule que c'est, lui, pour le lâcher, il va falloir s'accrocher, quoi. Voilà. Bon, Adrien.
Oui, je pense qu'en effet, il va se montrer très régulier en second rideau. On le verra pas à l'attaque. On le verra pas non plus lâcher irrémédiablement tel le vainqueur de Rennes. Il sera là entre la 7e et la 9e place. C'est un peu le match à Strong de 2015. Voilà, tout ça.
Ok. Alors juste, on vient d'évoquer Bardet juste avant en Maïchka. J'avais prévu juste derrière de faire un tout petit aparté sur Thibaut Pinot. Parce que Thibaut Pinot... Voilà, on ne sait pas s'il va jouer le général ou pas. Alors, lui, il dit qu'il viendra pour les étapes. Son entraîneur, son frère, Julien Pinot, lui, dit par contre que oui, il va jouer le général. Donc, du coup, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc, est-ce qu'on peut raisonnablement penser que Pinot va jouer le général sur le Tour de France, sachant qu'il sort du Giro, où il a fait quatrième quand même, un bon Giro, hein, voilà, on était déçus qu'il ait raté le podium de peu à la fin, mais il faut quand même pas se mentir, c'était un bon Giro. Il a fait aussi un très très bon début de saison en multipliant les places d'honneur sur la Ruta del Sol, le Tirreno, même le Tour des Alpes. Donc vraiment un très beau début de saison, un Giro dans les pattes, donc du coup, peut-être un petit peu court physiquement pour tenir 3 semaines encore sur le Tour de France. Du coup, est-ce que c'est une bonne idée, et surtout, est-ce qu'il va le faire de jouer le général?
Ben, Thibaut Pinot, à chaque fois qu'il vise le général, il se foire et il va chercher une étape. Donc cette fois-ci... S'il vise les étapes et qu'il se foire, hein, il peut gagner le général.
C'est magnifique. J'avoue, quoi. Et sinon...
Honnêtement, je pense que Thibaut Pinot ne devrait pas viser le général, surtout après avoir fait... après avoir fait le Giro, je trouve qu'il devrait se calmer un petit peu. Viser une étape, ce serait déjà énorme pour lui. Et s'il peut empocher le maillot à poids, en plus, ce serait formidable. Honnêtement, là, c'est le seul Tour de France depuis très longtemps où Thibaut Pinot arrive sur le Tour vraiment sans pression. On n'attend pas grand-chose de lui. C'est l'occasion pour aller claquer une étape alors que qu'il sera libre de ses mouvements, quoi.
Ok. Lucas ?
Non, je pense qu'à mon avis, il va partir dans l'optique de suivre au maximum en fonction de comment se passent les premières étapes, aussi son chrono, hein, qui va un peu montrer s'il est en forme ou pas. Il va suivre. S'il y a des cassures, on peut être sûr qu'il sera pas forcément devant. Il va peut-être perdre un peu de temps. Et au soir de la planche des belles filles, on verra vraiment s'il a quelque chose à jouer ou pas. Je pense que le mieux pour lui, et de toute façon, c'est ce que il disait, et même ses coéquipiers, notamment Reichenbach, disaient le mieux pour lui et ce qu'il espère faire, c'est gagner des étapes, au moins une, et avoir le maillot à poids. Parce que dans un CV, voilà, t'as gagné le maillot à poids du Tour de France. Déjà pour un Français, voilà, on est tous un peu fans du maillot à poids. On a commencé avec Jalabert, Virenque, tout ça, Anthony Chartaud et tous les autres. Et donc, non, le maillot à poids, il est important pour les Français. Et voilà, pour lui, il repartirait pas sans rien.
Okay,
donc,
okay.
Il va tenter à la fois les deux, parce qu'on sait que celui qui gagne le maillot à poids a souvent quand même gagné une étape. Donc, l'un va pas sans l'autre.
Sauf Anthony Chartaud.
Ouais. Ouais, Anthony Chartaud, c'est vrai. Mais bon, c'est voilà.
Adrien, ton avis sur Thibaut Pinot ?
Comme Lucas, je pense qu'il va tenter de suivre dans les premiers jours. Par contre, Lucas disait qu'il fera un point au sort de la planche des Belles-Filles. Moi, je pense que sur la planche des Belles-Filles, il va perdre du temps, logiquement, parce que ce n'est pas son effort de prédilection, mais qu'il fera vraiment un point au soir de l'étape de Chambéry. S'il est encore dans le coup, il s'accrochera. Dans les Pyrénées, s'il est encore dans le coup après les Pyrénées, il s'accrochera. Ça va être ça pendant 3 semaines, je pense. Sur un malentendu, il fera peut-être un top 10. Je le vois difficilement faire mieux qu'un top 10. Alors du coup, est-ce que ça vaut le coup de s'accrocher pour un top 10 ou est-ce qu'il faut attraper une étape ? Je sais pas trop parce que et après il faut regarder la configuration des étapes. Je le vois pas forcément briller sur les étapes qui arrivent en descente. Les seules étapes qui pourraient lui convenir, c'est Peyragude qui arrive assez rapidement quand même et l'Izoard en fin de tour. Mais l'Izoard, vu le format de la course, je la vois plus pour un favori. Mmh. Donc ça va être un tour particulier pour Pinot. Je pense qu'il va jouer les poids, mais les poids après, bon bah. Anthony Chartaud a gagné le maillot à poids, donc à partir de là, n'importe qui peut le gagner. Hein. Ce sera pas une performance exceptionnelle non plus.
Il en prend plein la gueule, hein, le Chartaud, là.
Ouais, mais c'est parce que voilà, c'est lui qui sort un peu, on pourrait dire, Pellizzotti. Il y en a eu d'autres. Mais est-ce que tu ne penses pas que juger au soir de l'étape de Chambéry, c'est pas un peu trop tard vu les cols qu'il y a dans l'étape de Chambéry? Je trouve que ce serait un peu bête de suivre s'il est déjà un peu largué au classement. Enfin, largué, c'est-à-dire à 2 minutes, 3 minutes par exemple, ce serait déjà beaucoup. Est-ce qu'il ne ferait pas mieux d'accentuer ce retard pour partir en échappée, passer en tête sur les 3, parce qu'il y a 3 color catégories, hein, il me semble.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Donc passer en tête au sommet des 3, ou au moins au sommet des 2 premiers, et peut-être rattraper dans le 3e en fonction de la course des leaders, plutôt que de voir et d'essayer de suivre les favoris dans ce début d'étape.
Je sais pas, parce qu'il a tout intérêt à être au devant avec les favoris les plus forts sur l'étape des routes, qui peut prétendre gagner. C'est chez lui, ça va être une arrivée en petit comité avec pas mal de favoris, avec une pointe de vitesse. Je sais pas trop s'il aura assez de retard au départ de Nantua, et si c'est intelligent d'avoir du retard et de faire l'échappée sur ce genre d'étape. Je sais pas, c'est une si belle étape, est-ce qu'il vaut mieux faire passer en tête de 2 à 3 hors catégorie, ce qui est même pas sûr, et ne pas jouer la victoire au final, ou c'est assez compliqué.
Ça dépendra, enfin, de toute façon c'est très compliqué. Après c'est une étape qui part avec un col directement, okay. Donc pour s'échapper c'est quand même plus simple. Après ça dépendra de la course des leaders, parce qu'on peut imaginer qu'il passe en tête des 2 premiers, il est pas loin de passer en tête du 3e, il peut très vite avoir sa victoire d'étape aussi. Donc voilà, ce sera une étape je pense clé pour lui, pour déterminer ses objectifs.
Ok, ok, très bien. Bon, ben voilà, le Capino, on est un petit peu partagé sur la décision qu'il va prendre, mais on peut quand même se dire que, enfin, je sais pas, un fond de top 10, ça serait quand même pas ouf. Hein. Il faut vraiment un maillot à poids et une victoire, ça serait déjà beaucoup mieux pour lui.
Je préfère le maillot à poids à un top 10, perso.
Donc voilà. Puis réalistiquement, après un Giro aussi exceptionnel au niveau de la difficulté que celui qu'on a eu cette année, même s'il décide de viser le général, en 3e semaine, il risque d'être un petit peu cramé, quoi, plus rapidement que les autres, quoi. Parce que même si ça fait 5 semaines de récupération entre Giro et Tour, vu le menu qu'il y avait au Giro cette année, ça m'étonnerait que s'il vise le général, il n'ait pas des craquantes au cours de sa quête, quoi, pour le top 10, hein, malheureusement.
Oui. Malheureusement.
Enchaînons, avec justement un coureur, un sard, comme il avait été décrit, voilà, Fabio Aru. qui reste sur un échec en 2016 sur le Tour de France, alors qu'il était dans les top 10. Alors, il était 7e, je crois, au moment où il craque, lors de la dernière étape, lors du coup de folie de Romain Bardet. Très haut lésionné. C'était le lendemain du coup de folie ? Ah, excuse-moi.
Ouais, c'est Mollema qui craque à Saint-Gervais-Mont-Blanc, et le lendemain, dans Jouplane, c'est Fabien Roux.
Très bien, bon, ouais, voilà, c'est ma mémoire qui m'a fait défaut, excusez-moi.
Bon, non, voilà, il a vraiment tenu jusqu'à la dernière étape, c'est ça que je veux dire.
C'est ça, mais c'est exactement ça, oui. J'avais bien retenu que c'était sur l'avant-dernière étape qu'il avait vraiment craqué et qu'il passe donc de la... Bah, il perd 6 places, je crois qu'il termine 13e du coup. Et du coup, c'était une saison 2016 un petit peu ratée du coup pour lui. Et là, cette année, ça revient plutôt pas trop mal. Hein, 3e au Tour d'Oman, 8e au Tour d'Abu Dhabi et puis récemment 5e du Dauphiné où il s'est montré assez fort. Dauphiné qui a été remporté par son équipier Fuglsang qui sera lui aussi là. Et... il a également et surtout gagné son championnat national. Donc on va le voir avec un joli maillot tricolore sur les routes du Tour. Oui, joli ou pas, effectivement, on verra bien. Mais donc voilà, Fabio Aru qui revient sur les routes du Tour pour à nouveau jouer avec les meilleurs. Est-ce qu'il pourra le faire, hein? C'est parce que l'année dernière, il n'avait pas vraiment joué avec les tout premiers rôles avant sa craquante. Est-ce que cette année, ça sera le cas? Surtout que cette année, il aura avec lui Fuglsang, donc, qui a l'air d'être dans la fin de sa vie puisqu'il vient de gagner le Dauphiné. Donc voilà, à l'image un petit peu des Movistar, eux aussi risquent d'être deux sur les finales d'étapes difficiles. Donc à voir ce qu'on pourra faire avec ça. Surtout que eux ont plus tendance à être offensifs, quand je parle d'eux, c'est les Astana que les Movistar. Donc il y a moyen de faire de jolies choses. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien?
Oui, je pense que Aru peut faire un top 5. Peut-être même un podium, mais il a l'air très très bon en ce mois de juin. Je pense qu'il va arriver plein badin. Comme dirait Vincent Moscato. Et avec Fuglsang, ça peut faire un très bon duo. Après, c'est pas un coureur que j'apprécie outre mesure. Je rejoins un peu Buomaniac à son sujet. Mais il devrait être là et il ne devrait pas avoir de craquante, contrairement à l'année dernière.
D'accord, ok. Et Fuglsang, lui aussi fort qu'en juin, sur le mois de juillet? Parce que c'est quand même un sacré... Si il affiche la même forme que sur le Dauphiné, ça peut être un sacré élément en faveur de Aru pour la quête de son top 5. Hein. Ça, y a pas à en douter, quoi.
Je suis pas sûr pour Fuglsang. J'ai l'impression qu'il a eu un pic de forme très avancé parce qu'il était vraiment impressionnant au début juin. Je pense qu'il va un peu peiner en troisième semaine de tour parce qu'il était vraiment vraiment impressionnant contrairement aux autres coureurs.
Il a fait une talent ski, quoi.
Peut-être, ou une... Comment il s'appelait ce Slovène?
Brajkovic. Ouais. Ok, Lucas, ton avis sur les Astana?
Non, j'aime bien le duo, en fait. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait sur le Dauphiné. Même tactiquement, c'était pas mal, je trouvais. L'étape du Mont du Chat, où vraiment, ils étaient au-dessus, avec la victoire de Fuglsang. Sur le papier, vu leurs résultats sur le Dauphiné, on pourrait mettre ce duo au même niveau que Quintana Valverde, finalement. Sur leurs résultats, hein, pas sur le potentiel. Après, ouais, je pense que ça va très vite. Ils vont très vite choisir un leader, et, contrairement à la Movistar, et l'autre va bosser pour lui, quoi. Ils ne vont pas tenir à deux leaders comme ça durant l'ensemble du tour. Donc, Fabio Aru, moi, je le vois bien dans le top 5. Ça reste un vainqueur de grand tour, hein. Il n'y en a pas non plus tant que ça au départ. Donc Fabio Aru, je le vois top 5 devant Romain Bardet, à peu près voilà, à la bagarre, quoi. Et peut-être un jour un peu moins bien, ce qui va lui faire perdre trop de temps pour espérer déjà la victoire et peut-être même le podium.
Ok. Alex, sur Aru et Fuglsang, les mecs d'Astana, t'avais quelque chose à dire ou pas?
Pas forcément. Aru, c'est pas un coureur que j'affectionne particulièrement, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est le cas de beaucoup de monde, j'ai l'impression. Hein.
Ouais. Non, je préfère plutôt Fuglsang qui m'avait bien impressionné lors du Dauphiné. Ça va être la bataille pour savoir qui va craquer en premier et qui sera le leader de l'équipe parce que je les vois pas vraiment cohabiter ensemble, notamment après ce qu'on avait sur le Dauphiné. Voilà. J'espère que Fuglsang sera. Se montrer un peu meilleur que l'italien.
Ok, très bien. Du coup, on va pouvoir enchaîner avec un petit colombien. Chavez, les versions de prononciation divergent, mais bon voilà, comment on dit sans déconner? Moi, je dis Chavez. Hein.
Ah, Chavez.
Chavez, non? Chavez, le CH en espagnol, c'est Ja.
Non, le R, c'est le J, non
le J, ouais.
Horace Chavez, je sais pas. Du coup, le petit Colombien qui revient vraiment quasiment à la compétition, on l'a vu sur le Dauphiné, mais bon, il jouait pas du derrière avec les meilleurs, parce que il faut se souvenir que Chavez, alors qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu une blessure, lui. Il avait plus couru au moment du Dauphiné depuis l'Herald Sun Tour, donc ça datait quand même. D'ailleurs, Herald Sun Tour, il avait pris la 9e place, juste après sa 2e place sur le Tour d'Amander. Donc voilà, il avait fait de belles petites performances dans l'hémisphère sud, puis depuis, c'était un petit peu en repos. Et là, il revient pour le Tour de France, même si la crainte qu'on a, c'est qu'il soit pas à son meilleur niveau, parce que comme je viens de le dire, il ressort d'une blessure. Alors confirmez-moi ça. Je sais plus quel problème il avait eu, sincèrement, Chavez. Pourquoi on l'avait plus vu pendant plusieurs mois? Je crois que c'est une blessure, mais il faudra que vous me confirmiez ça. Mais donc voilà, Chavez qui risque d'être un petit peu à court de forme. Donc peut-être que les premières étapes difficiles risquent de lui être un petit peu fatales pour le classement général. Moi, j'espère que non, sincèrement, parce que Chavez.
Voilà, Orica, Kreuziger derrière.
Oui, après pourquoi pas. Et même, elle a aussi Simon Yates, qui a fait sixième de la dernière Vuelta. Donc, il y a quand même du leader de remplacement. Mais Chavez, on aimerait tous qu'il. Enfin, je parle en tout cas, je pense qu'on aimerait tous qu'il arrive à tenir, parce que Chavez, c'est un petit peu le cycliste idéal en montagne, parce que c'est vraiment un mec ultra offensif et qui a pas peur, justement, un petit peu à l'image de ce que peut faire un Contador, qui a pas peur de perdre sa place au général. Quitte à attaquer pour justement viser plus haut que qu'un simple top 5, etc. Donc Chavez, ça peut être un des vrais animateurs de ce Tour de France. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que il arrivera à faire un bon classement général malgré ses problèmes cette année, Adrien?
Chavez, ça, il a une blessure au genou en début d'année. Je suis pas sûr qu'il soit mentalement en forme pour jouer le général, parce que je viens d'apercevoir que son père Hugo Chavez était mort il y a quelques années. J'étais pas au courant.
Oh la tristesse.
Oh là 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 là.
Non, plus sérieusement, je le vois un peu en... Je le vois pas au niveau pour jouer le général avec sa blessure de début d'année. Peut-être là pour des étapes et encore, j'ai bien peur que... Je sais plus qui disait hier qu'il allait arrêter sa progression après 3 grands tours réussis. Mais je suis d'accord avec cet avis.
S'il arrive sur le Tour de France avec le même niveau qu'il avait l'année dernière sur le Giro et sur la Vuelta, c'est-à-dire son vrai top niveau, peut-être celui qu'on ne verra pas en juillet, est-ce qu'il y a quand même moyen qu'il vise une bonne place au général? Bon, même si ça reste le Giro et la Vuelta et qu'on dit régulièrement que c'est des courses un petit peu moins difficiles en termes de concurrence que le Tour de France, c'est totalement vrai, mais un top 5 deux podiums sur le Giro et la Vuelta, ça vaut quoi sur le Tour de France potentiellement? Un top 10?
Un podium.
Ah oui, carrément. Donc tu mets quasiment un podium sur la
Vuelta. Un podium du Giro, quand on voit la startlist du Giro, ça équivaut presque à un podium sur le Tour.
Ouais, c'était la startlist l'an passé, c'était pas non plus.
Ouais, c'était pas la même.
Est-ce que tu mettrais Steven Krushvac sur le podium du Tour de France, quoi?
Ah oui, c'est vrai. Bah non, alors.
Tu fais beaucoup de revirements dans ce podcast, Adrien. Hein.
Je dirais que c'est un top 5, parce que Chavez, voilà, il y a une continuité. Donc vraiment, on peut espérer le voir devant. Mais bon, y a quand même Kreuziger qui va l'épauler. Simon Yates, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire, la cohabitation avec Simon Yates. Plutôt partir pour les victoires d'étape, peut-être.
Je pense que Simon Yates, c'est peut-être plus la route secours, je sais pas. Je ne sais pas du tout.
Après, Simon Yates, il va se prendre une banderole de la flamme rouge dans la gueule, il va arrêter.
Ouais,
hein.
C'est ça.
Après...
La chance, c'est que entre les deux frères Yates, il y en a un qui est un peu un suiveur, c'est Adam, je crois, et Simon, c'est le mec qui est plutôt offensif, si je me trompe pas. Oui, c'est celui-là, parce que Simon Yates, c'est celui qui a gagné son étape sur le Paris-Nice cette année, non?
Oui, c'est ça.
C'est bien celui-là qui est. Putain, je l'ai compris.
C'est
à
Fayence,
non? À Fayence, c'est ça, ouais.
C'est bien celui-là qui est plutôt offensif, ouais, donc voilà. Donc pourquoi pas, effectivement, des victoires d'étape avec Simon Yates. Mais Simon Yates, à mon avis, étant donné le. Disons, l'inconnu vis-à-vis de la forme de Chavez, vu sa blessure, ça m'étonnerait qu'il mise tout sur lui. Hein. À mon avis, Yates, il va être gardé bien au chaud en attendant de voir ce que vaut vraiment Chavez. Quoi, hein. Ça va être, comme je dis, ça va être la route secours. Quoi.
Ça va, voilà. Chavez, je le sens plutôt sur les victoires d'étape, sur de grosses étapes de montagne, plutôt qu'autre chose. Je vois plutôt Kreuziger qui est la valeur sûre pour un top 10 au général.
Enfin, Kreuziger, ces dernières années, quand même, je n'ai pas l'impression que sur les tours de 3 semaines, il soit très impressionnant. C'est devenu un très très bon équipier, mais après.
Oui, Kreuziger, il est plus au niveau.
Il fait top 10 l'an passé, mais en profitant de d'une belle tactique de course, on va dire.
Ah oui, j'avoue, dixième. Ouais, pas mal. Ok, ok. Bon, voilà. Des choses à dire sur Chavez, sur... Est-ce que, alors, qui croit en Chavez pour le général? On va faire vite fait un petit tour de table, parce que là, c'était un petit peu confus. Qui croit que Chavez retrouve son niveau après sa blessure et arrive sur le Tour de France et est capable de faire une bonne place au général? Adrien, oui, non?
Non.
Alex?
Oui.
Lucas?
Oui, si le top 5, c'est une bonne place.
Ah bah oui, top 5, c'est une bonne place, oui, c'est une bonne place.
Pour Chavez, il sera la lutte. Pour moi, il sera la lutte.
D'accord, très bien, très bien. Moi, j'ai envie d'y croire, hein, sincèrement, parce que je l'ai sur Rival Manager. Et puis, parce que je pense que c'est un coureur qu'à peu près tout le monde apprécie de par son tempérament. Hein, bon, voilà. Mais effectivement, j'ai quand même quelques doutes, parce que c'est quand même c'est le Tour de France. Donc, c'est la course la plus difficile, celle où il y a la concurrence qui est la plus élevée de toute l'année. Et il ressort d'une blessure. Enfin, j'ai quand même des doutes sur le fait qu'il arrive à retrouver. Enfin, à mon avis, il ne sera pas au même niveau que ce qu'il avait affiché l'année dernière sur le Giro et sur la Vuelta. Donc, moi, je pense qu'effectivement, pourquoi pas Yates pour le général. Alors là, malheureusement, ce sera juste un fond de top 10. Et Chavez pour faire des étapes. Et pourquoi pas, d'ailleurs, le plus sérieux concurrent à Pinot au maillot à poids, hein, d'ailleurs. S'il y en a un qui doit se poser comme son principal adversaire, c'est sans doute un Chavez qui viserait pas le général, quoi.
Ou un Barguil, hein, aussi. Attention, un Barguil qui va pas jouer le général.
Enfin, Barguil a encore rien prouvé sur les grands tours. Faut se calmer.
Il a fait 8e du Tour d'Espagne 2013, je crois, ou 2014.
Ouais, c'est ça, voilà. Bon, c'est sa meilleure performance.
On est 4 ans après, quand même.
Ok, très bien. Bon, après, quand même, Barguil est quand même en dessous, je pense, que Chavez en termes de grimpe pure.
Ouais, mais Chavez, il a un problème au genou, donc je sais. Franchement, sincèrement, le genou, c'est très compliqué, donc je le vois pas du tout performer.
Ouais, bah après, mais s'il revient à la compétition, c'est quand même que son problème est à peu près réglé, quoi. C'est juste, moi, ma crainte, c'est pas qu'il ait des problèmes au genou, parce que pour moi, s'il est aligné au départ d'une course, c'est que son problème au genou est réglé. Moi, le problème qu'il pourrait avoir, c'est que, étant donné qu'il a eu ce problème à son genou, il soit en retard en termes de préparation et qu'il soit juste pas à son meilleur niveau. Moi, c'est plus ça que des douleurs au genou que je crains pour lui, quoi. Parce que pour moi, si tu prends le départ du Tour de France, c'est que t'as pas le genou qui est dans la boîte à gants, quoi.
Sur une chute aussi, hein. Ça peut. Oui. On sait jamais ce qui peut se passer. La première semaine du Tour, toujours très tendu.
C'est ça.
Ok. Très bien. Bon, ben, enchaînons avec peut-être le dernier coureur. Je pense qu'il va avoir droit à sa propre présentation personnelle. C'est Dan Martin. Dan Martin qui malheureusement va devoir se débrouiller absolument tout seul, mais bon, étant donné que c'est pas un mec qui va viser sans doute la victoire pour le Tour de France, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme équipe autour de lui, mais bon, en cas de défaillance, il y aura Brambilla autour de lui. Pourquoi? Parce que son équipe est évidemment concentrée autour de Marcel Kittel, mais lui, il a quelques libertés, et il va viser sans doute le général, et cette année, moi, quand je regarde son palmarès, à chaque fois, je suis impressionné. Cette année, il est d'une régularité, mais sans faille. 5e au Tour de Valence, 6e en Algarve, 3e de Paris-Nice, 6e en Catalogne, 2e de La Flèche et de l'Es-Bastogne-Liège, et 3e Dauphiné. Le mec est un métronome, quoi. Je trouve ça impressionnant. Voilà, alors qu'est-ce que Dan Martin peut faire sur ce Tour de France, sachant que l'année dernière, il a terminé dans les 10 premiers, il me semble. Je fais ça de mémoire totalement. Hop, je suis en train de taper son nom sur Pro Cycling Stats. Hop. Et donc en 2016, le petit Dan Martin, il avait terminé 9e du Tour de France, donc voilà. Donc, est-ce que cette année, il peut à nouveau faire un top 10? Est-ce qu'il peut faire même mieux que ça? J'ai envie de vous poser la question. Alex?
Dan Martin, j'y crois pour un top 5. Il s'est montré très régulier, il s'est montré offensif tout au long de la saison. Je ne sais plus s'il était aligné sur le Tour de Catalogne ou en Dauphiné, où il avait fait de très bonnes choses.
Les deux, ouais.
Les deux?
Ah bon, ouais, 6e en Catalogne et 3e du Dauphiné.
Ouais, c'est ça. Donc, le problème, c'est après, est-ce qu'il va réussir à tenir sur 3 semaines? Moi, honnêtement, je pense qu'avec l'expérience de Dan Martin, il sait comment fonctionne un tour de 3 semaines. Et je pense que cette année, ça peut être la meilleure performance de Daniel Martin sur un Tour de France. C'est un gars qu'on a tendance à sous-estimer, un peu comme Louis Meintjes, que je vois aussi atteindre un très haut niveau sur ce Tour de France. Donc, c'est un gars qui passait en dessous du radar parce qu'il a été éclipsé par tous les autres favoris, mais qui n'est pas du tout à sous-estimer et qui peut faire un très bon résultat.
Après, moi, je pense qu'il a été beaucoup sous-estimé parce qu'au départ, c'est pas un vrai pur grimpeur, quoi. C'est avant tout un puncher qui grimpait pas trop mal. Mais au fur et à mesure que les saisons passent, je me rends compte qu'il est je le trouve de plus en plus fort en haute montagne. Et vraiment, il commence à vraiment à rentrer dans... Ben, ça devient un mec qui est quasiment aussi bon puncher que grimpeur, quoi, maintenant.
C'est un Valverde, quoi.
Ouais, voilà, il arrive peut-être à... Il atteint presque le profil d'un Valverde. Alors qu'il y a quelques années, franchement, en haute montagne, il craquait assez régulièrement. Et sur les tours de plus... Les tours de 3 semaines, il n'arrivait pas à faire grand-chose. Il avait fait 7e d'une Vuelta, je crois. Mais c'est un petit peu un trompe-l'œil, parce qu'une Vuelta, c'est... voilà, c'est pas... La haute montagne sur la Vuelta, il n'y en a pas forcément... Il y en a 2-3 étapes, mais bon... Il y a beaucoup de courses de côte et de trucs pour de moyenne montagne. Donc voilà, je mettais sa performance sur ça. Mais là, force est de constater, depuis quelques saisons, vraiment, en haute montagne, il arrive à vraiment faire des très très belles étapes. Et tout simplement, c'est devenu un mec qui sait vraiment très bien grimper. Donc ouais, pourquoi pas. Moi, ça, je trouve que ça peut être potentiellement la surprise de cette année. Mais je me méfie qu'il a beaucoup couru, je trouve, cette année quand même. C'est un petit peu la crainte que j'ai. C'est qu'effectivement, comme je le disais, il est présent depuis le mois de février. Et toujours très fort et toujours là devant. Donc peut-être que... Il commence à se montrer un petit peu fatigué. Hein. Peut-être que sur la fin de Tour de France, il aura un petit peu de mal, quoi, à l'image d'un Thibaut Pinot. Quoi. Lucas ?
Non, bah, je pense que Dan Martin, il va encore jouer son top 10. Pareil, je l'avais cité, je ne sais plus quand on parlait, je sais plus de qui on parlait, peut-être de Haru, ou de Maika. Enfin, je le vois un peu dans ses... se battre avec ces mecs-là, quoi. Avec peut-être Bardet aussi. Je vois bien les premiers devant avec Froome, Quintana, Porte, Contador, peut-être. Et puis derrière, un second groupe avec Bardet, Martin, Maika, et puis bon, tous ceux qu'on a déjà cités, quoi. Haru aussi, par exemple. Donc non, pour moi, Dan Martin devrait faire un top 10, hein, vu ce qu'il a montré cette saison. Après il y a aussi des concurrents au top 10, hein, peut-être on va en parler juste après, mais je peux citer quelques noms, enfin des mecs qui ont bien surpris. Je pense à la Lotto Jumbo, quand je vois le... il y en a forcément un qui va s'approcher du top 10 entre Bennett, Roglic, Rezink peut-être, mais il y aura du monde en tout cas. Peut-être qu'il y aura moins d'écart entre le 10e et le 11e qu'auparavant.
Ok, passons désormais à disons, je vais vous faire un énorme package. J'avais tous les autres potentiels concurrents au top 10, mais bon, qui sont pas non plus qui n'ont pas suffisamment de prouvé pour mériter une présentation personnalisée, disons. Donc, il y a Ion Izagirre, qui est très très fort cette année. L'année dernière, il était très très fort aussi, mais qui malheureusement n'a jamais rien fait sur 3 semaines, et qui là, pour la première fois, aborde le Tour de France en tant que leader de sa formation. Donc, c'est l'inconnu total. Meilleur pas sur un grand tour, 27e du Giro 2015. Donc là... on ne sait pas trop. Mentiès, qui lui, par contre, apporte un peu plus de certitude, puisque l'année dernière, il était dans les 10 premiers. Mais bon, à voir s'il arrivera à rééditer cet exploit, parce que l'année dernière, il était limite. Mais bon, on peut se douter que depuis, il a progressé. Et puis, cette année, il a fait quand même des belles courses. Ensuite, pourquoi pas également... comment tu dis ?
Uran.
Oui, voilà, justement, Uran, exactement, de la Cannondale, bon, parce que Roland, hein, pour le général, c'est la blague, donc voilà, pourquoi pas Uran. Également Talansky, j'ai potentiellement, comme vous le disiez, vous l'avez évoqué, un mec de la Lotto Jumbo, donc là, il y a Roglic, il y a Bennett, il y a Gesink, même si pour moi, celui qui a le plus de chance, c'est peut-être Roglic. Pourquoi pas, après, Machado, bon, là, on sera plus pour le top 15 que pour le top 10, on va pas se mentir. Barguil, oui, Machado, bon, Barguil, il visera pas le classement général, donc... il est un petit peu à part, mais bon, je le mets quand même dans le lot.
Est-ce qu'il y en a un qui osera dire Tige Benoot?
Oui. Moi, j'avais noté aussi Sepúlveda, pourquoi pas, le retour. Ah, le retour.
Ah, s'il fait le tour en voiture à G2R, ça va.
Voilà, exactement. Il a un petit taxi, il peut prendre de l'avance. Et le dernier nom, Guillaume Martin.
Mollema aussi.
Mollema, on l'a évoqué avec Contador. Ah. Et après, Guillaume Martin, donc du coup, le Français de la Wanty, qui découvre le Tour, mais qui sans doute, il sera pas en la lutte pour le top 10, mais pourquoi pas pour le top 20, parce que lui, je pense qu'il a vraiment l'intention de viser, de faire le maximum en termes de classement général et de voir où est-ce qu'il en est. Donc voilà, parmi tous ces coureurs, est-ce que vous en voyez un potentiellement faire un bon Tour de France? Donc voilà, et puis si j'en ai oublié, n'hésitez pas à donner d'autres noms. Vas-y,
Mentiès et Uran sur top 10.
Ok, bon, très bien. Alors voilà, commence. Donc Mentiès et Uran.
Ouais, Mentiès, Uran, top 10. Uran, c'est un peu une valeur sûre. Je pense qu'il, bon, il fera pas un haut top 10. Il fera le fond de top 10, 9e ou 10e.
c'est sûr que ça va se battre pour justement ces places 8, 9, 10. Mmh. On ne sait pas vraiment qui sera où. Uran, je pense que c'est une valeur sûre en montagne. Ça peut très bien faire le job puisque Pierre Roland ne fera rien en montagne. Et Luis Meintjes, que je vois arriver gros comme une montagne et qui confirmera le top 10 de l'année précédente. Voilà.
Ouais. Bon, après, Uran, j'ai envie de dire que c'était une valeur sûre il y a 3 ans, parce que depuis, justement, en montagne, j'ai trouvé qu'il a pas mal régressé. Il a enchaîné deux Giro, deux fois deuxième, et depuis, il a un petit peu plus de mal à retrouver son vrai niveau, même si cette année, on l'a quand même vu sur les étapes reines des grandes courses qu'il a fait, que ce soit sur le Tirreno, sur le... Quelle autre course ? Je crois qu'il y a une autre course où il a été également plutôt fort sur l'étape de haute montagne. Donc, Uran a l'air de bien revenir, effectivement, mais la valeur sûre, je tempère un petit peu ça. Et puis Meintjes, ouais, effectivement, pourquoi pas. Surtout que Meintjes, il est très, il a l'habitude de faire des saisons à coup d'éclat, quoi. C'est un mec qui va être très très fort sur une course ou deux dans la saison, mais qui va pas être ultra régulier, quoi. Et là, sur le Tour de France, on peut se dire que ça peut être une de ses courses. Surtout qu'il reste sur une 8e place sur le Dauphiné. Donc ouais, pourquoi pas Meintjes à surveiller.
Il peut jouer le maillot blanc, Meintjes, hein, non ?
Oui, bah, c'est un des gros favoris.
Ça la lutte. Et ça pourrait faire un top 10, ouais. C'est plutôt bien vu.
Adrien, est-ce que tu as parmi cette liste de coureurs, est-ce qu'il y en a un ou deux qui t'inspirent ?
Oui, bah, Luis Meintjes, pareil, je le vois un top 10, mais pas un fond de top 10. Hein. Je le vois faire un vrai top 10 où on le voit avec les meilleurs. Rappelez-vous du dernier Tour de France, il était souvent en fin de groupe et il remontait les morts les uns après les autres. C'est marrant, mais je le vois bien rivaliser avec le top 5. Il m'impressionne vraiment. Après, j'ai envie de citer Perry Kemener, 6e du Rhône-Alpes-Isère Tour, donc pourquoi pas.
Ça, c'est pour faire plaisir à Bulot qui
suit. Ouais, puis bah, c'est pour Bernaudot aussi. Hein.
Ouais, le salut de Direct Energy passe par Perry Kemener, d'accord.
Exactement. Non, plus sérieusement. Et Uran, pareil que Alex, je vois bien. Uran, il a bien préparé son affaire. Là. Je sens bien, peut-être pas un top 10, peut-être un top 15, mais il ira chercher son étape. Peut-être même les poids.
D'accord, ok.
Ok, bah je vois qu'il y a Roland les poids pour le coup dans l'équipe Cannondale.
Non, parce que Uran est plus intelligent tactiquement que Roland.
Roland va jouer les étapes en ayant fait du Giro.
Je suis pas sûr que Roland puisse jouer les poids, ouais.
C'est sûr, c'est sûr. Bon, je vois déjà que vous êtes tous les deux sur Uran et Meintjes, hein, donc au moins.
Kemener.
Oui, donc. Bon, les deux, vous en avez au moins deux en commun.
Attention, là, Daniel Navarro aussi. Hein.
Seront aussi
alors Navarro, j'aime bien qu'on joue à un jeu. Sur quelle étape se casse-t-il la clavicule ?
Ah,
ça, c'est pas beau, ça.
Non, c'est pas beau, quoi.
Ça, c'est méchant, c'est méchant. C'est le nouveau Moncoutier de Cofidis. Ok, Lucas, je te laisse la main pour un autre coureur,
comme je le disais tout à l'heure, je voyais bien un loto de Jumbo aller dans les 10. Donc, s'il y en a un, ce sera forcément soit Rezing, soit Bennett, encore que Bennett, bon, j'y crois pas trop, mais je vois plutôt Primoz Roglic en fait. Primoz Roglic qui est hyper impressionnant depuis le début de saison, qui est un ancien sauteur à ski, hein, il faut le savoir, qui a été. Je crois qu'il gagne, alors je sais plus, c'est peut-être la Volta Algarve, ouais.
Ouais.
Il gagne en Algarve, il fait top 5 au Tirreno.
Ouais, mais même.
Il fait top 5 partout en fait. Donc,
au Pays Basque aussi, en Romandie. Hein. Enfin, le mec est partout.
Non, il est vraiment super bon. Très bon en chrono, donc attention, il pourrait être très très bien placé rapidement. Et pourquoi pas en jaune. Ça aussi, vu qu'il a déjà gagné de nombreux prologues, ça pourrait être la bonne pioche. Donc, ouais, Primoz Roglic, moi je le verrais bien dans le top 10 au final. Alors, on l'a jamais vu sur 3 semaines, donc c'est un petit risque un peu quand même. Rezing a des fois plus de. Comment dire, on pourrait plus facilement parier sur Rezing, ouais, plus de références, voilà, merci. Et donc que sur Roglic, mais ouais, le Slovène, ce serait pas mal, je trouve, qui termine dans le top 10.
Ce serait une bonne performance. Moi, je mise plus sur Roglic que sur Gezink, hein, parce que Gezink, ces dernières années, quand même, c'est plus le Gezink qu'on connaissait. Hein. Il a baissé un petit peu le pavillon et à part une étape à la rigueur, je vois pas Gezink viser un classement général, sincèrement. Et Roglic, ouais, comme tu le dis, c'est l'inconnu total sur 3 semaines. Un petit peu à la Izagir. C'est la première fois qu'il va être
leader. Sauf qu'Izagir, on l'avait vu l'an passé, il avait gagné à Morzine. Et donc, ça veut dire qu'il était quand même en forme en fin de tour, même s'il était équipier au départ. Mais ouais. Il a tenu les 3 semaines. Quoi.
Mais Izaguirre, l'inconnu, c'est parce qu'il n'a jamais tenu le rôle d'un leader au départ d'un grand tour. C'est pour ça aussi.
La nervosité, il ne peut pas relâcher tôt dans les étapes. Voilà, ça joue aussi. Ouais.
Ok, bon, mais d'autres noms à citer. On a fait personne parle de Talensky, je remarque. Donc le monde a laissé tomber Talensky.
Ouais, même sur le Dauphiné, bon, il s'est montré, mais il n'a pas fait de gros résultats non plus. Hein.
Ça aide les échappés, comme d'hab.
Ok, ouais, pourquoi pas. Du coup, Cannondale, en fait, il y a beaucoup de monde. Hein, parce que Uran, Talensky, Roland, il y en a qu'un seul des trois qui a visé. Alors, visez plus sur Uran que sur Talensky, du coup. Ok. Je retiens.
Cannondale Drapac, c'est quand même très, très solide niveau baroudeur.
Sur le papier, parce que
ouais,
très solide.
Roland, c'est... Talensky, Uran, Clark, Bevin, Brown.
Il y a moyen de faire des trucs, mais bon, ces dernières années, ils sont souvent très très forts sur le papier, mais dans les faits, c'est l'équipe qui faille un petit peu. Hein. Ça fait... voilà, ils sont un petit peu rattrapés. Je crois que leur première victoire, c'était pas en Californie ou sur le. Non, c'était la victoire de Roland, je crois. Je sais plus s'il y avait une statistique assez. Voilà, c'était leur première victoire.
Non,
je crois que c'était la première victoire World Tour depuis un ou deux ans, la victoire de Roland sur le Giro. C'était pas un truc comme ça?
Non, c'était depuis Formolo qui avait gagné au Giro en 2015, je crois.
Ouais, donc c'était ça. Donc ça faisait deux ans quasiment que. Enfin, ça faisait deux ans qu'ils n'avaient plus gagné un World Tour, c'est ça, Cannondale?
Ouais. C'est ça. Mais là, depuis, ils enchaînent bien. Hein.
Ouais, ça va. Ouais, ça va mieux. Là. Ça va mieux.
Voilà. Sinon, la grosse prête, c'est pour le top 10. Aymar Zubeldia.
L'homme fantôme qu'on ne va pas voir.
Hop, on arrive aux Champs-Élysées, on regarde le classement, bim, 10e Zubeldia, ça peut tomber.
Voilà, il était 11e la veille, il y a un mec qui chute sur les champs. Oh,
c'est
putain,
ça. 10e. Oh putain, 10e Zubeldia, on l'avait pas vu venir. Voilà.
Ouais, pourquoi pas. Bon, est-ce qu'on a fini pour le général? Est-ce qu'on peut faire une dernière petite partie sur justement les baroudeurs, sur qui vous voyez animer les étapes, qui vous voyez les gaziers, comme on dit, ceux qui vont animer les échappées, ceux qui vont pourquoi pas décrocher des victoires d'étape sur des profils un petit peu accidentés ou pas. Donc voilà, il y a notamment une équipe, je pense, qui va revenir dans beaucoup de bouches là, c'est la Lotto Soudal. Donc allez, allons-y. Qui est-ce que vous voyez parmi les coureurs à noter pour pourquoi pas les victoires d'étape pendant le mois de juillet? Adrien, je te laisse commencer.
Alors, en numéro 1, en échappée publicitaire, Frédéric Bacquart. Il fera plein d'échappées publicitaires, peut-être qu'il en gagnera une. C'est le meilleur coureur de la Wanty. Et c'est peut-être le seul roux du Tour de France. Donc, voilà.
Ah.
Autant citer, hein.
Tu soutiens les roux.
Les roux, c'est important dans le vélo, quand même.
Ah, oui, il faut de les sucer.
Vrai. Oh putain. Ouais. Comment c'est parti en live de suite, Stéphane?
Brambilla aussi, je vois bien Brambilla. On n'a pas vu trop de la saison, mais il faut toujours se méfier des Italiens. Ils savent très bien préparer leur pic de forme. Et après, je vais citer De Rent. Puis je laisse la main à qui la veut.
Ok, très bien. Et ben moi je prends la main et je la file à Lucas.
Alors bah moi, en premier lieu, Pierre-Luc Perrichon, meilleur baroudeur du Tour de France 2015. Toujours là en 2016, sixième du championnat de France 2016, quatrième cette année. Il m'a l'air plus en forme que jamais. J'espère le voir devant. Je sais que je le verrai devant. Mais alors là, s'il pouvait me claquer une petite étape, peu importe le terrain, parce qu'il est bon partout, hein, ça c'est assez notoire. Donc voilà, Pierre-Luc Perrichon en 1. En deuxième, Warren Barguil, qui le dit clairement, vient pour chasser les étapes, donc on risque de le voir souvent à l'avant. Sur les étapes de moyenne montagne et de montagne. Et comme je suis très français, je veux dire Johan Ofredo, qui découvre le Tour dans les échappées publicitaires, comme disait Adrien. Et voilà, je pense que c'est un mec qui peut, en finisher, s'adjuger une étape, ou au moins en être pas très loin.
Ok.
Très Frenchy hein, comme sélection.
Oui, j'avoue, un petit peu de chauvinisme, mais bon,
ouais,
bon
ça
c'est
va. Normal.
Alex, est-ce que toi aussi tu es chauvin?
Alors moi, j'ai noté Thomas De Rent, donc le grand baroudeur de ce tour. J'ai aussi noté Thomas Vauclair pour son dernier Tour de France. Il va tenter d'en claquer, de claquer une dernière étape. Ce serait cool. J'ai noté Tony Galopin, qui est passé au travers de toutes les conversations qu'on a eues. Donc voilà.
Peut-être vrai, un, oui, je... Effectivement.
Un candidat sur les échappées. Donc on a l'Armada Cannondale également. Adam Hansen aussi, du côté de la Lotto Soudal, qui est à son je ne sais combienième grand tour consécutif.
17 ou un truc comme ça.
Pour les et j'ai aussi Jarlinson Pantano, voilà, dans la lignée de ce qu'il a fait l'année dernière.
Ah, ouais, mais alors, moi je suis pas d'accord effectivement parce que Pantano l'année dernière il était chez Yam. Il n'est pas de leader, c'est-à-dire l'année dernière. Cette année, je peux te dire que ça va être, vu ce qu'il a montré en début de saison, ça va être l'équipier, un des équipiers favoris de Contador. Hein. Ça m'étonnerait qu'il
ait enfin, il a déjà Mollema, Zubeldia.
Ah bah, un peu plus, déjà, ça ne pas de mal.
À Pantano, si tu prépares une attaque, il est parfait aussi. Hein. Mm. Il met dans le rouge tout le monde et.
Et Serge Powels pour la Dimension Data.
Okay. Ouais, en parlant de Dimension Data, je rajoute Stephen Cummins,
ah, oui.
qui fait un numéro chaque année et qui va encore sûrement nous en claquer une, je sais pas où, mais...
Puis envelé,
ouais, pourquoi pas, ça lui correspond.
Bon, voilà. Et vous avez... Alors, Wellens, on l'a pas cité quand même, je tiens à vous le dire. On a oublié Tim Wellens. Et puis, chez Lotto Soudal aussi, on a oublié Tige Benoot. Pour moi, c'est les deux gros gaziers de l'équipe, avant même Adam Hansen, avant même peut-être Tony Galopin, même, je dirais. Bon, voilà, c'est les deux mecs qui, pour moi, sont capables, s'ils sont dans une échappée, ça va être très difficile de les faire bouger, quoi.
Benoît, il a jamais gagné en pro. Hein.
Ah, il a quand même montré...
Il a jamais gagné, c'est pas facile de gagner.
Ah bah ouais, mais... peut-être que le déclic va arriver là, hein. S'il gagne sur le Tour de France, il peut gagner partout.
On dira, Simon Geschke n'a jamais gagné en pro, et puis il a gagné sur le Tour.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà, bon après qui c'est que j'avais noté, moi? Si j'avais noté du côté de la Wanty, ça a parlé de Backert. Moi, je parlerais surtout de Guillaume Van Kerkbeek aussi, qui a fait une démonstration sur le Samin cette année, ou Samin, je sais pas comment on dit, enfin bref. Et moi, je dis pourquoi pas sur une étape de costaud, il y a moyen qu'on le retrouve un petit peu, pourquoi pas avec Ofredo aussi, voilà, tout ce... fait partie des 3-4 coureurs de la Wanty qui sont capables de faire des jolies choses en échappée. Et je rajouterai la petite grosse cote, Nils Polit, bon, qui risque d'être utilisé par Christophe pour les sprints, mais qui, lorsqu'il y aura...
J'aurais plus forcément... vu Kijarlowski chez la Katusha.
Ouais, mais Kijarlowski va faire des échappées de montagne, mais bon, il sera toujours battu par quelqu'un, Kijarlowski. Hein.
C'est vrai que Christophe, entre Marco Haller, Nils Polit et Rick Zabel... j'avais pas trop fait attention à ça, mais il y a une belle armada lui aussi. Hein.
Et Tony Martin un petit peu aussi.
Oui, non, bah, je connais pas.
Ouais, non, mais voilà.
Ah, j'avais noté Van Barle aussi, parce que j'adore ce coureur et c'est un bon baroudeur aussi. Quoi.
Pourquoi pas, effectivement. Bon, ben sur ce, je pense que c'est la conclusion de ce long podcast. Que je regarde, ça fait 2h33, donc il va falloir couper ça en deux. Donc je vous le dis, j'ai du montage derrière à faire, moi. Il n'y a pas de problème. Bon, mais voilà, c'est la fin. On se donne rendez-vous quand? Est-ce qu'on se dit qu'on fait un podcast à chaque journée de repos pour faire un petit bilan de la semaine qui s'est écoulée?
On peut.
Moi, je suis chaud.
Je suis chaud, bon, voilà.
Moi, je suis partant.
On peut se dire ça, on peut tenter ça, effectivement. Donc la première journée de repos, je crois, c'est après la 8e ou la 9e étape, je crois.
La 9e étape.
Voilà, eh bien, on se donne rendez-vous, du coup, à ce moment-là. On verra si on dit des grosses conneries ou pas. Si.
Ouais, n'hésitez pas à nous charrier.
C'est ça. Juste avant de s'en aller, peut-être, le truc traditionnel, le top 5 pronostic. Je sais pas si personne l'a préparé, je suppose. Évidemment, moi-même, je l'ai pas préparé, mais bon. Est-ce qu'on pourrait pas se tenter un top 5, un pronostic du top 5 final du Tour de France, juste avant de se quitter? Qui est prêt à dégainer, là?
Allez, je suis prêt.
Ouais, vas-y, je laisse Adrien.
Alors, vas-y, Adrien.
Ok, 1, Froome. 2, Bardet.
3.
Oh là là, le truc.
3, Quintana.
C'est l'an 4,
Porte. 5, Mentiès.
Ouh, Mentiès qui est donc 5e, ok, pas de soucis. Okay. Lucas?
Alors moi, 1, Froome. 2, Quintana. 3, Porte. 4, Haru. Et 5, Contador.
Ok. Il reste donc Alex.
Alors moi, je verrais 1, Porte. 2, Froome. 3, Contador. 4, Quinternak. Et en 5, Haru ou Fuglsang. On est deux.
Très bien. Alors moi, le top 5, bon ben...
Un Bardet.
Non, Je ne suis pas à ce point supporter, n'exagérons rien.
Donc, Gastower.
Je reviens sur, sur Alex, parce que moi aussi, Porte 1, Froome 2, Quintana 3, Bardet 4, Contador 5. Voilà. Et je tiens à vous dire que sur le Giro, je m'en sortais avec 4 des 5 mecs qui étaient dans le top 5 final quand même. J'avais été très très bon.
Voilà. Moi, je tiens à rappeler que j'ai toujours été une quiche en pronostic.
J'ai aussi dit que Prono allait, que Pinot allait faire une défaillance sur le Giro aussi. Hein, donc,
ouais, ouais. Donc en fait, tous les mecs que vous avez cités, il faut qu'ils ont les genoux qui tremblent maintenant. Hein. Faut
falloir... Ouais, bah, s'il n'y en a aucun qui est dedans, c'est-à-dire qu'on a un podium Bardet, Martin, Chavez. Quoi. Donc,
ouais, j'avoue.
On devrait être pas trop mal.
Chute spectaculaire dans la descente du Mont du Chat, 70 coureurs impliqués, 24 fractures. on sait jamais. Tout bon, mais sur ce, je pense qu'il
Je ferai de mon mieux.
Vas-y, va balancer des clous et de l'huile sur la route, dans la descente. Mettre un petit peu de spectacle.
Est-ce qu'il y aura un incident aussi marquant que Froome à pied ou la flamme rouge qui tombe?
Je pense que ça va être difficile. J'avoue que l'année dernière, on a été gâtés.
C'est compliqué quand même.
Et la moto, enfin, il y aura forcément un truc bizarre qui va se passer avec l'organisation, tout ça. On sait pas quoi.
Un avion de tourisme qui s'écrase sur.
La diffusion d'une sextape de Christian Prudhomme.
Oh putain! Ah, on peut tout parier, hein, parce que là c'était Froome à pied dans le Ventoux, c'était quand même improbable. Hein. Là on peut sortir des paris pour des trucs comme ça.
Hein. Ouais.
Un tigre qui attaque les coureurs.
On passe un sprinter qui gagne mais en shootant. Ça,
Ah ouais! Ça, c'est et il y en a un qui l'a fait aux Paralympiques. Il y a l'arrivée, je crois qu'au Paralympique, il y a le sprint pour la deuxième place, je crois. Ils chutent tous les deux et ils franchissent la ligne sur le cul, les mecs.
Ah, j'ai pas vu cette image. Ah.
Alors je dis ça.
Attends, c'est les Paralympiques, c'était sur le cul, non?
Ah putain! Voilà, je pense que voilà, t'es trop en forme, toi, tu vas nous faire avoir des problèmes.
Et est-ce qu'on verra Théo courir avec un animal empaillé?
Alors, je tiens à vous dire que malheureusement, ça ne sera pas pour cette année, parce que cette année, je travaille cet été, donc du coup, mais je ne pourrai pas. Voilà, oui, il y a ça aussi, mais je ne pourrai pas me rendre sur les routes du Tour de France. Mais c'est un projet que j'ai dans le futur pour les prochaines éditions. Okay, j'ai une belette empaillée. Et un écureuil, j'ai le choix. Je ne sais pas lequel je prendrai, mais il y a des possibilités. Guettez vos téléviseurs dans les années à venir. Le mot de la fin, du coup, allons-y. Alors Adrien, je te laisse commencer.
Eh bien, sachant que le Tour de France, le 6 juillet, passera à Colombey-les-Deux-Églises au kilomètre 135, j'ai envie de citer le général de Gaulle qui disait « La France ne peut être la France sans la grandeur ». Ce sera tout pour moi. Vive Romain Bardet.
Eh ben dis donc. Putain, et les gars, ça va être difficile de suivre ça, parce que je sais pas ce que vous avez comme mot de la fin, mais moi, je peux pas passer après lui. Hein. Lucas, vas-y.
Comme le disait Gérard Rolls, vive le sport. Et j'ai une grosse pensée, j'ai une grosse pensée pour toute l'équipe de Village Départ que j'embrasse.
Oui, d'accord. On va faire spéciale citation, peut-être. T'en as une, toi, Alex?
Je n'ai pas de citation. Quoique si. Allez, je vais me motocoter. Romain Bardet. Pétage de caisson dans le monde du chat, voilà.
Très bien. Moi j'ai absolument aucune. Déjà que je suis nul en citation, là s'il faut que j'en sorte une comme ça, comme l'a dit un grand philosophe, la roue tourne va retourner. Non, je sais pas, j'ai aucun contexte à mettre là-dessus. Donc
mais
tu mets
une phrase de Thierry Adam, tu tombes avec lui.
Voilà. Moi je l'enregistrerai à part ma citation, histoire de la chercher, hop, j'ai trouvé un putain de truc là, hop. Sur ce. Je pense qu'il est temps de se dire au revoir et de se donner rendez-vous du coup ce sera combien? Ce sera début...
Putain, le 1er juillet.
Non, enfin oui, le 1er juillet devant votre télé, mais pour le podcast, c'est rendez-vous donc au soir de la 9e étape.
Le 10,
c'est ça, voilà. Enfin, plutôt le lendemain, le jour de repos. Donc, on se donne rendez-vous le 10 pour un prochain épisode, pour débriefer cette première semaine et potentiellement le pétage de caisson de deux temps coureurs, on verra bien. Sur ce...
On va embarder.
Bonne journée à tous, bon début de tour et ciao.
Allez, ciao.